sécuritaire.
De l'info sur VO1 après.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans un sporama en partie consacré à la visite du président de la CAF en Côte d'Ivoire en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Patrice Moussépi s'est dit satisfait de l'avancée des travaux, même si quelques-uns ont connu du retard. Et puis, le tirage au sort des quarts de finale des interclubs de la CAF a accouché de belles oppositions avec le choc à l'aller du Caire Raja de Casablanca en Ligue des Champions et en Coupe CAF Pyramide d'Égypte TP Mazembe de Lubumbashi. Et comme toujours, on sera avec nos consultants pour décortiquer tous ces sujets. D'abord, Lawal Dim Kosuro, fidèle au poste dans ce studio avec moi. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
On prend la direction de Libreville au Gabon pour retrouver Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamba est lui à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
À Dakar, au Sénégal, on retrouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VAC.
Et puis, Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Sporama, c'est parti. On commence par le tirage au sort des quarts de finale des interclubs de la CAF. De belles oppositions en perspective et en Ligue des Champions. Le Petro Atlético de Luanda fera face au Mamelodi Sundowns. Jules Valentin Ngoué, un duel entre Angolais et Sud-Africains. Deux clubs qui se sont bien comportés lors des phases de poule.
Oui, Élisée. Ce sont des clubs qui se sont bien comportés en phase de poule puisque l'un d'eux, le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, a même pris le meilleur sur le tenant actuel du titre, le National Al-Ahly d'Égypte, alors que l'autre, le Petro Atlético de Luanda, effectue un retour loin d'être anodin à ce niveau des compétitions de clubs sur le continent. Récent champion d'Afrique en 2016 et tête de file des clubs sud-africains depuis l'éclipse d'Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns est un adepte du beau jeu à la brésilienne et sa nouvelle présence en quart de finale de Ligue africaine des clubs champions n'est que le résultat d'un travail de formation permanent et d'un recrutement régional judicieux, l'environnement très professionnel lui permettant de faire bonne figure dans les compétitions continentales où il va retrouver un Petro Atlético de Luanda que la bonne santé économique actuelle de son pays nous ramène au premier plan. Ce derby régional illustre aussi la bonne dynamique qui anime cette sous-région d'Afrique australe, de nouveau capable de proposer des équipes nationales majoritairement composées de joueurs locaux aux productions collectives intéressantes, comme cela a été le cas en janvier-février au Cameroun, pour le Zimbabwe et le Malawi. On s'attend donc à une belle empoignade entre les Sud-Africains et les Angolais.
Autre duel, celui entre les Algériens de l'Entente de Sétif et l'Espérance de Tunis. Un tirage qui est loin d'être abordable par contre pour les clubs marocains. Le Raja face au tenant du titre à l'Ali du Caire, pendant que le Wydad se frottera aux Algériens du Sierre Belouizdad. Et puis, en Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane affrontera les Égyptiens d'Al Masry. Amine Birouk, trois confrontations de haute intensité.
Et que les clubs marocains n'ont pas été particulièrement gâtés par ce tirage au sort, en particulier le Raja, qui a tiré le gros lot, puisque des équipes qui se sont classées à la deuxième place, celle que tout le monde voulait éviter, par son pédigré, par son passé, par son ADN Champions League, c'est l'Ali. Visiblement, le Raja va devoir se surpasser et se souvenir qu'il a souvent tenu la dragée haute au club Kerot. L'aller aura lieu dans la capitale égyptienne, le retour devra avoir lieu au complexe Mohamed V de Casablanca, avec la certitude qu'en cas de bonne prestation en Égypte, le Raja aura toutes les chances d'accéder au dernier carré de la compétition. Idem pour le Wydad de Casablanca, qui affrontera dans un match très équilibré le double champion d'Algérie, Belouizdad. Le Wydad qui a le vent en poupe et qui semble avoir retrouvé de très très bonnes sensations, comme le prouve sa victoire contre Petro Atlético sur le score de 5-1. Et puis la RSB, qui a patiné pendant la phase de groupe, se déplace chez Masri de Port Saïd. Une rencontre qui semble à la portée des hommes de Florent Ibengué, pour peu qu'ils ne fassent pas preuve des mêmes largesses défensives que lors de la phase de groupe de la Coupe de la CAF.
Le TP Mazembe, vainqueur deux fois de la Coupe de la CAF, devra jouer gros contre les Égyptiens de Pyramide, finalistes en 2020. Valdo, c'est un tirage un peu compliqué pour les Corbeaux.
Élisée, vous dites que ce tirage est compliqué pour les tout-puissants Mazembe. En tout cas, je ne pense pas. Quand on sait que pour son dernier match de phase de groupe de la Coupe de la Confédération, les Corbeaux avaient pris les dessus sur Al-Masri, club égyptien, sur le score de 2-0. Une victoire qui a permis à Mazembe de finir en tête de son groupe. Donc, comme qui dirait, Mazembe a une idée du football égyptien cette saison dans cette compétition. Et s'il faut aller plus loin, le nom de Mazembe est collé aux côtés du National Ahly, du Zamalek sur le continent. Ce n'est pas Pyramide qui doit être une équation difficile à résoudre pour les Corbeaux. Toutefois, Mazembe est appelé à faire les nécessaires avec une bonne gestion de cette double confrontation et surtout que le réalisme soit au rendez-vous, comme lors du match contre Al-Masri à Lubumbashi, tout en espérant que le manque du championnat congolais dans les jambes des joueurs de Mazembe ne causera pas un préjudice à cette formation. Les Corbeaux sont donc appelés à ne pas se compliquer la tâche devant cette formation égyptienne.
Les autres affichent des quarts de finale de cette Coupe de la CAF. Les Tanzaniens de Simbaspor opposés aux Sud-Africains d'Orlando Pirates et enfin un duel 100% libyen Al Ittihad Al Ahly Tripoli. Match aller en fin de semaine et retour une semaine plus tard. Un autre tirage attendu, celui des éliminatoires de la CAN de 2023 qui est prévu le mardi 19 avril prochain. À Medine, si, les 48 sélections concernées seront finalement fixées.
Tout à fait, Élisée, les 48 sélections concernées par la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 seront finalement fixées sur leur sort car le tirage au sort aura lieu le mardi 19 avril à partir de 17h30 GMT. Cette date a été rendue publique par les responsables de la Confédération africaine de football ce vendredi à travers un communiqué de presse. Sachez, Élisée, que les 48 sélections engagées seront réparties en 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque poule participeront à la phase finale prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Concernant le calendrier des éliminatoires, la CAF a par ailleurs confirmé que deux journées auront lieu en juin 2022 contre 4 prévues initialement, deux autres en septembre 2022 et les deux dernières journées en mars 2023. Du coup, les 5 représentants du football africain à la Coupe du Monde pourront bénéficier de deux matchs de préparation contre des sélections issues d'autres confédérations en juin prochain puisque 4 dates au total seront disponibles sur ce créneau Élisée.
Ce tirage au sort aura lieu selon les infos, non pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique du Sud. Lawal, le diffuseur officiel de l'événement, a eu raison du pays hôte, contrairement aux autres tirages.
Oui, Élisée, c'est là toute l'incompréhension de cette décision prise par le comité exécutif de la CAF, quand on sait que les tirages au sort ont toujours eu lieu en terre haute de la compétition et que pour le cas de la Côte d'Ivoire, que le diffuseur impose sa loi. Je me demande, est-ce que c'est pas la crise au niveau de la fédération ivoirienne qui a poussé le diffuseur à changer de stratégie? Même s'il y avait une crise, les instances pour faire le tirage au sort ne dépendent pas de la fédération ivoirienne de football. Donc il n'y a pas de raison qu'on dise que le diffuseur impose sa loi. Maintenant, le diffuseur a voulu peut-être se faire un coup de com' pour montrer que c'est lui le patron, le tout-puissant de ce qui se passe. C'est peut-être
le
ça.
Le diffuseur est sud-africain.
Puisqu'il est sud-africain, tout comme le président Mossepé. Mais ces raisons-là ne sont pas valables. Mais comme on le sait, les membres du comité exécutif ont été cooptés. Donc, ils n'ont peut-être pas de décision. Ils subissent ce qui est décidé à gauche et à droite. Et qu'on ne donne pas les raisons fondamentales qui ont poussé à déménager le tirage au sort de la Côte d'Ivoire vers l'Afrique du Sud, il y a comme une volonté de se foutre des amateurs du foot ivoirien et de ne pas leur donner les chances de comprendre pourquoi on leur a arraché le tirage au sort Élisée.
Voilà qui est clair. La date du tirage au sort du CHAN en Algérie et du tournoi final de la CAN féminine prévu au Maroc en juillet prochain est également connue. Et Amine Birouko, contrairement au tirage de la CAN, ce sera le 28 avril à Alger et 3 jours plus tôt à Casablanca. Et là, on connaîtra alors les 3 groupes.
L'annonce du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la première édition à 12 sélections, L'enjeu est important puisqu'il s'agira de qualifier 4 pays pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande début 2023. Une compétition à laquelle aspire le Maroc, pays organisateur, qui aura la particularité de prendre part pour la première fois à cette compétition. Visiblement, tout le monde s'accorde à dire que le Nigeria sera le grand épouvantail, eu égard à son passé. 11 éditions remportées sur 13, et puis on verra dans quelle mesure les autres nations pourront contester la suprématie des Eagles. Il y a donc l'annonce du tirage au sort pour le 25 avril à partir de 20h15 au Maroc. Le lieu est à déterminer, on verra si c'est à Casablanca ou à Rabat. Et puis, il y a également le Chan qui aura lieu depuis 2023. Il faudra juste savoir si l'Algérie sera prête pour recevoir cet événement, dans la mesure où les travaux de réfection des principaux stades où devrait avoir lieu la compétition ne sont pas encore terminés. L'Algérie qui accuse un retard assez important en termes d'infrastructures depuis quelques années. Pour preuve, les Jeux méditerranéens qui devaient avoir lieu au mois de juin prochain à Oran sont encore, entre guillemets, susceptibles d'être retirés à l'Algérie.
On reste avec vous, Amine. La CAF a annoncé qu'elle examinera les changements de la fenêtre de juin de ces éliminatoires demandés par la Tunisie afin de permettre aux 5 représentants du continent de mieux se préparer pour la prochaine Coupe du Monde en novembre au Qatar. Est-ce légitime cette demande ?
Tout à fait normal, puisque si on dispute uniquement les éliminatoires de la CAN, et en particulier les 4 dates qui étaient prévues initialement au programme de la CAF au mois de juin, ça laissera peu de latitude pour préparer la Coupe du Monde face à des écoles autres que les sélections africaines. Une école sud-américaine, une école européenne, les pays d'Asie sont susceptibles de rencontrer la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, bien évidemment, ou le Ghana. Pour peu qu'on leur laisse 2 dates, et c'est la proposition qui a été adoptée par le comité exécutif de la CAF, elle sera entérinée dans les prochains jours, et ça permettra aux sélections africaines d'avoir de bons sparring partners. 2 dates sont nécessaires au mois de juin, et on verra dans quelle mesure, au mois d'octobre, lors des derniers réglages, l'Afrique aura également quelques confrontations susceptibles de permettre à ces 5 sélections de bien préparer l'échéance mondialiste qui démarre mi-novembre 2022.
Il faut dire que avant ce tirage au sort, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'était rendu en Côte d'Ivoire, pays hôte de cette CAN, pour voir l'avancée des travaux des infrastructures qui vont accueillir la grande messe du foot africain. Amédine, c'est une formalité pour la CAF qui veut toujours afficher sa confiance aux pays organisateurs.
Ah oui, Élisée, la Confédération africaine de football veut certes afficher sa confiance aux pays organisateurs, mais les responsables de la CAF veulent aussi rassurer les partenaires et les sportifs par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. En tout cas, le patron du football africain s'est dit rassurant par l'engagement des autorités ivoiriennes, mais aussi de l'état d'avancement des travaux des infrastructures sportives devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 23 juin au 23 juillet en Côte d'Ivoire. Le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, a réaffirmé la confiance de son organisation quant à la capacité de la Côte d'Ivoire à organiser cette grande messe du football continental. Élisée, c'est une très bonne nouvelle car la CAN, c'est presque dans un an, donc il faut tout faire pour éviter ce qui s'était passé en 2019 avec le Cameroun qui n'était pas du tout prêt, et cela avait poussé les responsables de la Confédération africaine à confier l'organisation de cette CAN à la dernière minute à l'Égypte, comme le dit l'adage, ça échaudé craint l'eau frappe. Élisée.
Accompagné de son secrétaire général Véron Moussengo, Motsepe a ensuite inauguré le bureau satellite de la CAF à Abidjan afin de tout coordonner avec le comité local et le gouvernement. Valdo, le Sud-Africain s'est dit satisfait des progrès réalisés par le pays, mais il reste des détails à régler.
Élisée, il faut dire que la Côte d'Ivoire s'y prend bien dans les préparatifs de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le pays des éléphants a fait preuve de beaucoup de maturité depuis qu'il a exprimé sa volonté d'abriter cette compétition. Déjà, si de manière générale, le président de la CAF s'est dit satisfait des progrès réalisés jusque-là, c'est que l'avenir s'annonce bien. Il n'y aura pas beaucoup de casse-tête comme ce fut le cas au Cameroun. Et surtout qu'à ces jours, de moins en moins, on évoque la pandémie à Covid-19. Les quelques réglages qui restent peuvent bien être gérés avant les débuts de cette compétition. La Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en musique pour ne pas être qu'un simple pays hôte. Il s'observe également que la sélection ivoirienne met les bouchées doubles pour que cette fête du football africain soit totale, tant dans la réussite de l'organisation qu'au résultat final qui pourra voir ces pays organisateurs s'offrir à nouveau les titres.
Il faut préciser que 6 stades sont en construction ou en rénovation pour la compétition, mais pour l'heure, 3 sont quasiment terminés, notamment ceux d'Epimbé, de Boaké et de Yamoussoukro. Alors Jules, le compte à rebours est lancé à près d'un an du coup d'envoi de la CAN.
Élisée, malgré toute la sympathie qu'on a pour le volubile patron sud-africain du football continental, son arrivée est toujours perçue en de telles circonstances comme une pression supplémentaire dans l'entreprise pharaonique qu'est devenue l'organisation de la CAN depuis les 2 derniers rendez-vous égyptiens et camerounais. Il est évident que la Côte d'Ivoire est capable d'organiser cette fête africaine toute seule. Mais à un an de l'échéance, au vu de l'avancée des travaux, le report du rendez-vous risque d'être inévitable, à moins que la sagesse élémentaire nous fasse systématiser la co-organisation entre le pays choisi et celui qui a abrité le précédent rendez-vous. Tout le monde y gagnerait. L'occasion pour l'ancien pays organisateur de plus rentabiliser des installations chèrement acquises en accueillant une partie du début de la compétition, tandis que le pays choisi assurerait l'autre partie et la fin du tournoi, en s'impliquant encore dans les 2 années suivantes. L'échange d'expérience renforcerait aussi les liens de fraternité. Dans tous les cas, il faut éviter de pérenniser le recours au report.
Merci Jules. On revient vers vous Lawal. La crise de l'élection du nouveau président de la fédération qui secoue le foot ivoirien a aussi été abordée par le président de la CAF. Cette élection, on le rappelle, est à l'origine de forts remous au sein de la fédération ivoirienne de football ces derniers mois. Moussepé a promis rencontrer les acteurs et qu'il n'y aura pas de perdants. Enfin, le bout du tunnel est proche.
Oui, Élisée, ce serait une vue de l'esprit que de croire que le bout du tunnel est proche. Avant toute chose, il faudrait qu'on récapitule un peu ce qui a amené la crise. C'est la candidature annoncée de Drogba qui a fortement bouleversé les donnes parce que les responsables de la FIFA en son temps n'avaient pas voulu que ça soit ouvert comme ça devrait être. Donc ils ont trouvé le mécanisme pour bloquer l'ancien capitaine des éléphants avec cette affaire de parrainage. Donc on sait que avec le parrainage, ils ne pourraient pas avoir ce qu'ils devraient parce qu'on a forcément verrouillé le système. Mais à y voir de près, on constate que Didier Drogba a l'appui de tous les acteurs du football ivoirien, acteurs non électeurs, il faut le préciser. Voilà. Et ce n'est pas sa popularité envers les férus du foot qui fera de lui le prochain président, comme pour Samuel Eto'o au Cameroun. Et moi, je rappelle que Didier Drogba a déjà annoncé ses intentions avant donc Samuel Eto'o. Mais comme il n'y a pas de crise au Cameroun, il a été élu. Donc il faut véritablement voir clair. Il faut que, pour aplaner toutes les difficultés, il vaut mieux enlever cette histoire de parrainage, organiser les élections libres, transparentes, ouvertes à tout le monde. Et si Drogba avait la possibilité d'être élu, il le sera. S'il n'est pas élu, il saura que le comité exécutif de la FIFA n'est pas avec lui et puis la vie va continuer. Mais qu'on prenne en otage le foot ivoirien de cette façon, c'est bien triste. Et cette crise-là a affecté les performances de l'équipe nationale. Souvenez-vous, face au Cameroun, on avait senti que la Côte d'Ivoire allait certainement renverser la tendance, mais malheureusement, elle n'a pas eu cette chance-là.
Éliminée en quart de la CAN,
pas de participation à la Coupe du Monde. Donc, tout ça, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'il vaut mieux s'entendre sur l'essentiel pour permettre à l'équipe de mieux se porter que de faire cette guéguerre d'intérêts qui n'avance pas, ne fait pas avancer le foot ivoirien.
Oui, Lawal. Didier Drogba, d'ailleurs officiellement candidat, dans une élection qui s'annonce palpitante le 23 avril prochain à Yamoussoukro dans le centre du pays.
Il a donc déposé son dossier hier au siège de la Fédération Ivoirienne de Football et devant une foule acquise à sa cause. L'ancien capitaine des éléphants se réjouit de ce moment.
Cette candidature est la vôtre. Mon projet, notre projet est celui de la renaissance du football. Je suis sincèrement content et j'ai hâte que la campagne démarre officiellement. Je souhaite donc une bonne campagne à tout le monde et bonne chance à tous les candidats.
La campagne débutera justement le 16 avril avec Idriss Diallo et Sori Diabaté. Drogba est l'un des trois favoris à l'occasion d'une élection qui regroupe 6 candidats. La CAN masculine de 2022 a été réattribuée à l'Égypte préférée à l'Angola, seul autre candidat. La compétition aura lieu du 11 au 18 juillet. Le tirage au sort est prévu fin mai. Le choix de l'édition 2024, initialement prévu en Algérie, est repoussé d'un mois. On écoute le président de la Confédération africaine de handball, le Béninois Aremu Manzourou.
Il s'agit d'une date pas facile à prendre, mais qui vient clore une situation très inconfortable qui affecte l'harmonie que nous essayons de préserver au sein de la famille du handball africain. Je dirais un malaise qui perturbe véritablement le déroulement du chronogramme qui doit conduire à la tenue effective de cet événement majeur de la Confédération africaine du handball. Le souci majeur du conseil d'administration, c'est de permettre à toutes les nations qualifiées de bénéficier d'un environnement et surtout d'indicateurs rassurants pour préparer convenablement leurs équipes.
Alors, Amine, la CAB est restée ferme. Ni l'une ni l'autre nation qui ont des divergences politiques au sujet du Sahara occidental.
Tout à fait. La Confédération africaine d'handball a décidé que le Maroc et l'Algérie n'organiseraient pas les éditions 2022 et 2024, de laisser de côté ces divergences d'ordre politique pour se consacrer uniquement à l'aspect sportif de cette compétition. L'enjeu est important. C'est des qualifications pour les championnats du monde, puis ensuite pour les Jeux olympiques de Paris. Et il fallait trouver un pays susceptible d'accueillir ces deux éditions sans pour autant qu'il puisse, je dirais, faire de gros investissements en termes d'infrastructures. Le pays tout trouvé, c'est l'Égypte, qui a déjà organisé la dernière édition du championnat du monde, qui possède les salles couvertes nécessaires, les terrains d'entraînement, les hôtels. Tout est prêt, il y a une organisation et logistique qui ont déjà été rodées il y a moins d'une année et c'est donc une décision tout à fait légitime de la part de la Confédération africaine d'handball qui a choisi de faire table rase des divergences politiques entre deux de ses principaux membres pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'aspect sportif d'une compétition de l'envergure de la CAN.
Valdo, la politique doit-elle prendre le pas sur le sportif ?
Élisée, la réponse à cette question est très complexe, hein, notamment à cause de la considération des fédérations et leur discipline par les politiques sur le continent. Mais est-il qu'il est difficile qu'une fédération décide totalement de la gestion et de la tenue d'une compétition continentale sans pour autant que les politiques n'en disent un mot, quand on sait que tout est politique d'abord et avant tout, d'où il y a donc lieu qu'il en soit ainsi. Mais je pense aussi qu'il faille quand même trouver des voies et moyens pour que cela ne cause pas préjudice à la bonne tenue des compétitions, puisqu'aller de report en report, quelles que soient les raisons avancées, on toucherait toujours à une organisation quelque part. La preuve, la CAN 2024 connaît déjà deux reports et un autre report n'est pas totalement exclu. Quant au choix de l'Égypte pour la CAN masculine, je crois que pour ces genres de compétitions, le pays des pyramides a tout pour faire de cette compétition l'une des meilleures organisations.
Merci Valdo. C'est fini pour ce programme d'aujourd'hui. Merci Lawal.
Élisée, c'est moi qui vous dis merci pour cette opportunité renouvelée.
Merci aussi à Amine Birouko qui intervenait depuis Casablanca au Maroc, à Jules Valentin Ngwe à Libreville au Gabon, Valdo Simon Yamba du côté de Kinshasa en RDC et puis à Diaga au Sénégal à Medine City. Chers messieurs, on se donne rendez-vous lundi prochain et bon carême à toutes les communautés chrétiennes et musulmanes du monde entier. Bonsoir.
Thank you. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.